Ça me pose beaucoup la question de est-ce que c'est la pratique militante en tant que telle qui a du poids ou est-ce que c'est la documentation et la visibilisation de nos actions? Par exemple, ces étiquettes avec des appels à l'aide, enfin, j'ai vu les photos, j'ai lu les articles, mais moi je les ai jamais vus. Et je me demande dans ton cas si ce qui a de la force finalement c'est pas le processus long que tu entames de recherche et de documentation de ces actions-là, plutôt que l'action, parce que c'est un objet dans une infinité d'objets, donc quelque part il se perd, mais toi le travail que tu fais, il peut en ressortir quelque chose. Enfin, c'est marrant parce que justement c'est un peu des petites bouteilles à la mer, mais en même temps, quelque part tu es en train de filmer un documentaire sur ces bouteilles à la mer, et du coup ça leur donne aussi du poids parce qu'il y a un contexte dans lequel tu peux t'inscrire. Enfin, je pense qu'un objet réparé dans un magasin, il fait peu sens et passera pour une erreur, mais dès lors où il y a une forme de mise en place d'un processus et aussi de conception autour de tout ça, ben moi j'ai pas vu ces objets, mais quand tu m'en parles, ils existent. Et les étiquettes qui ont été altérées par ces travailleuses pour alerter sur les conditions de travail, ben c'est la même chose que l'objet, quelque part, ça devient un symbole, mais que l'histoire doit aussi le dépasser. Et je pense qu'en ça, le politique, il est intéressant. Et je pense aussi que le politique a du poids quand il sort de nous-mêmes, en fait, qu'il arrive dans la sphère publique.
Oui, enfin, toi, tu appelles à tisser les histoires ensemble et là, tu es en train justement de dire que, voilà, avant même peut-être de les tisser ensemble, il faut les libérer ces histoires et ensuite, nous pourrons en faire d'abord un tissu d'histoire et avec ce tissu d'histoire, nous-mêmes faire corps, enfin, tissu social. Mais oui, totalement, en fait, et je vais te révéler quelque chose. C'est que l'année passée, où j'en parlais déjà de ces petites actions de sabotage, tout le monde me croyait alors que je n'étais même pas encore passé à l'action. Et en fait, ça avait déjà un certain poids, une certaine force. Et dès le moment où je pense que je m'auto-convainc qu'elles existent et qu'elles font partie de toutes les autres histoires existantes, peut-être c'est à ce moment-là qu'elles peuvent être. Enfin, que les gens, voilà, peuvent y croire.
Mais ça me fait penser beaucoup ce que tu dis. Enfin, j'ai aussi cette démarche particulière à la vérité et aux faits. Et c'est quelque chose qui était très fort pendant la période de recherche, c'est que beaucoup des histoires que j'avais étaient des histoires orales, ou alors rapportées d'une histoire orale. Et du coup, il y avait un grand flou et quelque part une impossibilité de les traiter comme des données dans un texte académique, parce que j'avais pas la personne qui avait écrit dessus, parce que c'était aussi des savoirs justement assujettis. Et je sais qu'en ça, Dorothy Allison m'a beaucoup aidée, parce qu'elle a fait un très très beau livre qui s'appelle Deux ou trois choses dont je suis sûre, que je conseille d'ailleurs de lire en anglais plutôt, et qui parle du rapport aux narrations et à la vérité. Et elle dit finalement ce qui compte, c'est qu'il y a plein de versions différentes de l'histoire, mais ce qui compte, c'est celle qui nous sert. Et ce sera forcément pas la même que la personne d'en face qui l'a vécue. Et bon, en l'occurrence, elle parle beaucoup de fiction humaine, mais je pense que même dans nos recherches, quand on s'attaque à d'aussi grands sujets qui parlent autant de violence et autant d'actes de résistance isolés face à une machine assez inexorable, la fiction devient importante en ça, parce qu'elle permet d'agencer nos histoires de manière à ce qu'elles puissent tenir ensemble. Et dans son livre, elle parle en fait beaucoup de sa famille et de son parcours en tant que femme lesbienne, que venant d'une classe pauvre, et de son rapport à l'écriture. Et elle dit qu'elle a toujours raconté des histoires et qu'en fait c'est grâce à ça qu'elle a pu survivre, parce que c'est les histoires qui nous servent. Et je pense que moi j'ai eu le même réflexe avec un désir très très tôt, avant de commencer même mes études à la aide en design mode, de trouver des raisons à pourquoi j'avais grandi dans une famille où autant de femmes avaient pratiqué les travaux d'aiguille, pourquoi tout ce que j'entendais autour de moi faisait souvent référence à ce passif-là dans les familles, mais que quelque part c'est comme s'il y avait un savoir immense qu'on avait en commun mais qu'on n'avait jamais pu verbaliser. Et ça va au-delà des femmes, ça va aussi sur les stratégies de mobilisation contre l'oubli face aux politiques qui laissent mourir. Je pense aussi au patchwork des noms qui a été fait par les proches des victimes du sida. Et je crois que finalement, isolé, bah, c'est des petits actes de résistance ou peut-être même anecdotiques par-ci par-là, mais qu'il y a des moyens par le texte, par la documentation, par l'installation artistique même. Je pense que l'art est un outil pratique parce qu'il permet une flexibilité aussi que peut-être d'autres médiums n'ont pas, de pouvoir les faire tenir et de nous servir. Enfin, je suis reconnaissante aux gens qui, quelque part, ont eu le courage d'écrire à l'aide ou aidez-nous sur les étiquettes, mais je suis aussi reconnaissante à ceux qui ont documenté ça et qui l'ont pris au sérieux. Et je suis reconnaissante à la personne qui m'a fait parvenir l'information. Enfin, il y a aussi tout un processus par lequel ça passe, où tout d'un coup, on a pu s'en servir les deux dans nos recherches, dans une autre école d'art, pour écrire quelque chose qui nous tenait à cœur. Et je trouve que c'est un beau travail quand même de retisser ces liens-là.
Mais en fait, c'est toute la tout le sujet de la traçabilité qui tient tant à cœur, en tout cas les activistes dans le milieu de la mode. Bien sûr, aujourd'hui, nous devons retracer justement toute la chaîne d'approvisionnement de nos vêtements, qu'il faut retracer et redonner crédit à toutes les personnes qui ont permis aux histoires de voyager et d'être passeureuses, en fait, oui. de celles-ci.
Et j'aime beaucoup cette histoire du savoir immatériel et de la valeur immatérielle des choses. C'est marrant aussi parce qu'en termes d'éthique de travail, de nouveau, on vient du même background et pourtant on a des avis assez tranchés sur comment on traite l'objet dans nos présentations. Donc toi, tu interviens quand même directement sur des objets, mais a priori, tu ne ramènes pas en présentation. Tu vas expliquer le processus de travail autour de cela. Et moi, je vais avoir, enfin en tout cas, durant mes études à la Edge, j'ai eu un rejet très fort de montrer les objets parce que je voulais justement les enlever à cette œil qui va forcément évaluer la valeur marchande ou la valeur artistique selon des critères quand même assez discutables, comme même moi je suis pas bien sûre de comprendre, et que j'avais très peur que du coup tout soit vu sous un prisme de l'esthétique, de la nouveauté, et que du coup de me focaliser sur des écoutes d'histoire, des partages d'histoire et de savoir, mais tout d'un coup finalement le résultat, le produit final était manquant. Ça permettait d'aborder du coup la pratique sérieusement. C'était le work qui devenait important dans le needlework, c'était pas le produit final. Et ce que je trouve intéressant, c'est toi, tu fais le chemin inverse. Tu prends l'objet et tu le redéfais ou tu le reconstruis, mais quelque part, tu l'altères à un moment où il est produit final pour repenser ce qu'il y a en arrière et repenser ce qu'il y a après. Et je trouve que c'est intéressant aussi comme navigation autour des produits, en fait.
J'essaie de déconstruire le produit, c'est exactement ce que je fais, et là tu parlais de needlework, et je me dis mais c'est fou parce que moi je peux totalement redéfinir ce mot, et parce que enfin je n'utilise plus l'aiguille. Bien sûr j'utilise l'aiguille pour réparer, mais je tente aussi de valoriser l'objet qu'est le découvite, le découseur. Pour mieux réparer, des fois il faut découdre, il faut déconstruire, et c'est un petit outil qui est en fait, à l'extrême opposé de l'aiguille. L'aiguille permet de tisser un lien entre deux corps. Les découseurs défait le lien. Et donc, en quelque sorte, je pourrais constituer un nouveau mot qui s'appellerait le seam ripper work, plutôt que le needle work. Dans cette nébuleuse de théorie, ou même dans une démarche plus pratique, où beaucoup de marques maintenant tentent d'adopter en fait l'upcycling comme corps de leur maison, de leur studio. Quand même, étant donné qu'elles sont ancrées dans ce système capitaliste et cherchent en fait, courent après le profit et courent après leur propre survie, eh bien, elles ne font pas appel aux découseurs, aux découvites. Elles coupent les coutures, mais en fait, toute la matière qu'on enlève avec les coutures juste coupées et perdues, qui finissent en perte, en chute, eh bien, c'est toute la matière qu'on n'a pas chérie. Et donc, pour moi, le découseur est en fait de nouveau rejoint toute cette constellation de petits objets, de petites actions qui entourent le Caire.
Mm-hmm. Je ne sais pas si je t'avais raconté, mais quand j'ai fait mon CFC de couturière, mes profs me disaient le découvite, il est interdit. En fait, il servait à ouvrir juste les boutonnières qu'on faisait à la main ou à la machine. Mais pas parce que c'était un objet pratique, mais parce qu'en fait, il a tendance, si mal maîtrisé, à beaucoup abîmer la matière. Et comme il y avait un peu ce truc de ultra précision, parce qu'on fait du sur-mesure, quand on décousait, c'était soit, alors carrément, tu tends ta couture, tu l'écartes au fer et tu coupes les fils que tu vois. Mais en fait, c'est vrai que ça marche relativement bien. Moi, je ne sais pas couper au milieu de mes pièces, mais en fait, ça marchait nickel et c'était super propre. Soit, pour les coutures plus complexes, en fait, tout découdre au poinçon en tirant le fil plutôt qu'en l'arrachant. Parce qu'en fait, le découvite, pour ceux qui pourraient visualiser, on le passe dans la couture et du coup, il va couper tous les fils qui se seront croisés. Et moi, c'était intéressant parce que je n'avais pas le droit de faire ça, parce que j'avais toujours le risque d'un coup d'arracher un petit bout de tissu. Du coup, je devais mettre la couture à plat, seulement d'un côté, et tirer les fils minutieusement. Mais en fait, c'est un travail qui est inimaginable en termes de découpe des pièces au poinçon. Enfin, ça ne ferait pas sens. C'est tellement fastidieux. Mais c'était aussi une sorte d'apprentissage à la dure de « fais pas d'erreur dans tes coutures », je suppose. Parce que ça va pas être facile à enlever.
Mais en fait, c'est comme ça que j'utilise le découvite. C'est assez drôle.
Ah, toi, tu le prends du coup d'un côté pour tirer seulement
exactement,
le fil supérieur ou inférieur.
Exactement, je n'ouvre jamais la pièce. Toi, c'est intéressant.
D'accord. En fait, moi, j'ai vu beaucoup de gens, en fait, ce qu'ils prenaient, du coup, c'est qu'ils prenaient leur couture, qu'ils l'écartaient avec les doigts, Et puis, il passait le découvite d'un
Alors,
coup,
j'ai jamais
en
fait
mode,
ça.
tu déchires tous tes fils, quoi.
Totalement, ouais, je vois. Non, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Moi, pour moi, je considère que le point. Enfin, justement, le découpe-vite, tu poses d'un côté et tu découds la couture minutieusement d'un côté. Mais bon, enfin, en soi, ça rejoint le travail du poinçon et ça rejoint. Enfin, pour toi qui. Enfin, là, tu viens d'exprimer ta frustration de faire ce geste. Eh bien, pour moi, prendre son temps, en quelque sorte, le découpe-vite, ou en tout cas le poinçon. Dans ton cas, nous apprend à, voilà, est une épreuve d'humilité, nous apprend à prendre le temps, nous apprend à ralentir. Et étant donné que ce qui est un peu au fondement même de ma recherche, c'est toute une recherche autour de la décroissance que j'ai menée en bachelor. Il y a bien sûr la décroissance économique, mais aussi la décroissance matérielle et tout simplement de vitesse, en fait, de rompre avec toute la modernité si on emploie des grands termes et prendre son temps, en fait.
Enfin, il y a vraiment cette idée un peu du travail fait presque avec rage. Enfin, bon, du coup, ça a toujours été un objet assez violent et que du coup, tu l'utilises dans un truc beaucoup plus contemplatif. Enfin, je veux dire que c'est contemplatif parce qu'on sait ce que c'est hein, de faire les coutures point par point. Pour moi, le découvite, il incarne vraiment le mot en découdre. Enfin, tu sais, il y a un truc dans l'agressivité et dans le fait de tu vas pas par quatre chemins, quoi. Tu traverses tout et c'est fini. Et du coup, j'aime bien que tu utilises cet objet qui est quand même fait pour ça, quelque part, dans une démarche beaucoup plus appliquée. Et oui, de cœur, comme tu dis. C'est intéressant aussi ce détournement, du coup. Enfin, je sais pas comment les gens l'utilisent normalement. Peut-être qu'on m'a menti et que tout le monde fait comme toi, mais.
Mais bonne question. Mais en soi, peut-être qu'on l'utilise comme tu le décris, étant donné que ça s'appelle quand même un découvite, voilà. Comme tu viens de l'expliquer, enfin, l'idée est d'aller rapidement. J'ai jamais réussi à aller rapidement avec un découvite, ça prend quand même un certain temps. Mais c'est justement un temps consacré au care, aux soins. Et en fait, peut-être pour l'expliquer en fait, au public qui nous écoute, le découvite aussi se présente comme une lame. Avec un poinçon au bout, et qui en soi se présente quand même comme un objet violent vu de près. Si on zoome dessus, j'ai montré une photo récemment à un chercheur justement de l'IRAD aussi ici, qui ne l'avait jamais vu en vrai, qui l'a vraiment pris pour un objet violent et
D'autodéfense presque. Enfin, en
d'autodéfense.
plus, il a ce format très miniature,
Mais
féminin.
miniature, en fait, il s'imaginait pas qu'il était miniature. Et ensuite, je sors mon porte-monnaie et il faut que je vous l'avoue, je porte un découvite toujours sur moi dans mon porte-monnaie avec mes pièces et quelques épingles à nourrice. Mais j'ai toujours mon découvite sur moi. Et ensuite, je lui ai sorti et il était assez étonné de voir que c'est un tout petit objet inoffensif, mais qui de près, voilà, paraît violent.
C'est vrai qu'il a ce côté aussi très. Ouais, les aiguilles à tricoter pour être une personne assoiffée de sang sur la place publique. Mais en plus, je crois que le découvite, c'est quand même aussi un des objets, je pense, où les gens se font plus facilement mal en couture, avec les aiguilles forcément, mais aussi ce truc comme c'est une lame. Je suppose que si on fait pas attention, je crois que je me suis quand même coupée une ou deux fois. Et puis moi, le seul moment où j'aimerais l'utiliser, et en même temps, je comprends et je suis d'accord, et c'est pas un objet que je suis pas très à l'aise avec. Mais c'était pour ouvrir les boutonnières, donc à chaque fois c'est des coutures de, je sais pas, 5 mm, et tu le plantes, et tu ne dois pas aller trop loin, et c'est aussi un peu le moment aussi où tu risques de rater toute ta pièce. Mais c'est un objet dangereux, hein.
Oui.
Tu joues avec le feu.
Je joue avec le feu, mais je pense que toi et moi, nous jouons avec le feu. Tu aimes aussi beaucoup, j'ai l'impression, ce symbole de feu que j'ai vu présent quand même dans ton travail. Mais peut-être on a parlé un petit peu de vocabulaire, voilà, on a mentionné cette expression en découdre. Il y a aussi serrer les rangs. Et voilà, plutôt dans ta recherche. Enfin, ça serait plutôt l'expression qui serait plus propre à ta recherche, disons.
C'est vrai que
Mais
l'autre fois on parlait de tricot avec Marianne et je me disais c'est marrant cette expression serrer les rangs parce que pour moi elle s'applique toujours à un contexte de société et que je me suis demandé ce qu'il en serait tout d'un coup de faire une œuvre ou du moins une pièce où vraiment tu resserres les rangs. En fait tu vas au plus fort et au plus rigide que tu puisses. Enfin surtout à la machine à tricot qui du coup permet des grands métrages, peut-être de partir très lâche. Même avec des trous et d'à la fin d'arriver à quelque chose le plus dense et opaque possible qui puisse même pas être défait. Et je trouve intéressant que d'un point de vue propre comme figuré, serrer les rangs, c'est empêcher la dissolution, c'est empêcher la blessure, c'est aussi un moyen de répartir le poids des choses. Et je trouve que dans un contexte société de résistance aussi, c'est un geste important. Enfin, dans cette idée de, oui, de protection et de prendre soin. je trouvais assez drôle. Et en fait, au début de la recherche, j'avais beaucoup de peine à accepter un peu toutes les métaphores et les expressions imagées qu'il y a autour des travaux d'aiguille, parce que je les trouvais toujours un petit peu kitsch et du coup, elles prennent un aspect très romantisé et que j'avais envie qu'on prenne au sérieux. Mais de plus en plus, je me rends compte que ça ouvre aussi des possibilités quand on sort de ce point de vue objet, designer de mode. En fait, quand on commence aussi à prendre le futile au sérieux, ça prend un autre sens.
Totalement, ouais.
Et c'est chouette de serrer les rangs. Enfin, je veux dire, même d'un point de vue métaphorique et pratique, c'est vrai qu'en fait, ça a un impact.
Tu parlais de maille et tu parlais du fait de ne pas blesser, enfin d'être à, de serrer jusqu'à ne pas laisser passer à, enfin, aucune arme, en fait. Et ça me renvoyait directement à la côte de maille, qui en soi n'est pas une maille, mais voilà, des maillons, mais qui a le même, finalement, la même fonction de protéger. Et en fait, c'est là où je me dis, mais la tension dans le geste tendre, le geste de tendre, la tension peut également être bienveillante, émancipatrice, mise sous pression. Nous pouvons voilà, trouver également des solutions à diverses crises que nous pourrions traverser. Il faut voir peut-être sous un nouvel angle les expressions justement qui sont issues du travail d'aiguille.
Mais c'est aussi ce geste, enfin, ce deux gestes tendres, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il y a une mise en tension qui est, je crois, dès qu'on prend position quelque part, qui est obligatoire. Enfin, je crois aussi qu'on a peut-être des positionnements qui sont éthiquement ou politiquement pas forcément ceux avec lesquels on vit aujourd'hui en termes de société, et que du coup il y a une tension immédiate. Et je crois que peut-être la grande tension et le grand enjeu de tout ça, c'est de pouvoir prendre soin, mais de pas trop fléchir non plus. Et je crois que c'est un équilibre qui est compliqué. Enfin, moi je me rends compte que c'était très compliqué de résister et en même temps de vouloir montrer l'amour, parce que c'est deux choses qui sont quand même dures à articuler, parce que ça veut aussi dire que résister et rendre visible, c'est exposer à de la violence. Et que moi, cette question de prendre soin des espaces, prendre soin des voix que je donnais à entendre, elle était primordiale, mais qu'en même temps, elle nécessitait aussi une confrontation à la violence, parce qu'il fallait la mettre au monde. Enfin, la mettre au monde, c'est un peu, je suis pas créateur ou autre, hein, mais que tout d'un coup, bah, une visibilisation, ça veut aussi dire quel cadre on donne aux histoires, quel cadre on donne aux objets, quel cadre on donne aux pratiques, et même de devoir définir des hiérarchies et des, oui, je sais pas, des éthiques par rapport à tout ça. Et puis, je pense que là, il y a vraiment une mise en tension. Et après, j'aime bien aussi toujours cette idée que, enfin, pour moi, mettre une tension. Enfin, je pense qu'on a tous les deux des pratiques aussi de fil qui sont assez différentes ou d'aiguilles. Pour moi, la tension, par exemple, sur le tricot, ça veut dire que ton doigt va rester tendu et que c'est la tension dans ton corps qui va se transmettre dans l'objet et qu'en fait, tout d'un coup, ça resserre les rangs. Que peut-être en couture, c'est différent, c'est un mouvement du bras qui va venir resserrer, qui va mettre en tension. Si c'est des machines, c'est des roulettes à tourner. Enfin, y a... Et en plus, franchement, régler les tensions sur les machines, c'est un grand truc aussi. Enfin, je trouve que la tension, elle est quand même un peu au centre de toute la pratique, mais je n'ai jamais pensé comme quelque chose d'immatériel aussi.
Oui, voilà. Enfin, moi, je le vois aussi comme un flux d'énergie, voilà, qui passe du corps à la machine, de la machine aux vêtements ou voilà, du textile à la machine, et enfin, dans le sens inverse, c'est toujours, enfin, nous sommes toujours en dialogue
Du privé au
avec
public aussi, je pense qu'il y a une
également.
grande tension dans ce genre de pratique. De aussi qu'est-ce que nous on sait, qu'est-ce qu'on donne à voir, qu'est-ce que comment on articule. Enfin, je crois que c'est vraiment dans des enjeux de société comme la production textile, il y a vraiment un très très grand jeu, un équilibre des fois un peu risqué entre qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, c'est tellement gros, c'est tellement global, qu'est-ce qu'on fait? Et quelle position en tension on peut avoir là-dedans? Enfin, je sais pas, moi des fois je crois que je suis encore un peu. J'ai des fois la tête qui tourne quand je pense à la quantité de travail d'aiguille qui se fait. Enfin, au nombre des aiguilles, au bruit que ça ferait, ne serait-ce que ça. J'imagine souvent le bruit de toutes les machines qui cousent. Et c'est pas représentable. Et c'est.
Oui, c'est assez vertigineux.